Chapitre 2. La journée à Kitz, capitale d'Hyperion, avait été chaude et pluvieuse. Même après l'orage, un tapis de sombres nuages continuait de flotter au-dessus de la ville, emplissant l'air de l'odeur salée de l'océan qui se trouvait à 20 kilomètres à l'ouest. Le soir venu, tandis que la grisaille du jour faisait place au gris du crépuscule, un double bang secoua la ville, se réverbérant sur le pic montagneux solitaire dont la silhouette dentelée se dressait au sud. Les nuages avaient pris un éclat bleu nacré. 30 secondes plus tard, un vaisseau couleur d'ébène perça la couverture de nuages et descendit doucement sur son panache de flammes de fusion, ses feux de navigation lançant leurs éclats rouges et verts dans le ciel plombé. À 1000 mètres, les projecteurs d'atterrissage du vaisseau s'allumèrent, et 3 faisceaux de lumière cohérente, montant de l'astroport au nord de la ville, verrouillèrent l'appareil sur un trépied de bienvenue vermeil. Le vaisseau tomba lentement jusqu'à 300 mètres du sol, puis se déplaça latéralement avec la sûreté d'une chope qui glisse sur un comptoir mouillé, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la fosse de refroidissement qui l'attendait. Des jets à haute pression arrosèrent la fosse et la base du vaisseau, faisant surgir des geysers de vapeur qui se mêlèrent aux rideaux de pluie fine, balayant la plaine de bitume de l'astroport. Lorsque tout fut fini, le silence retomba, à l'exception du bruissement de la pluie, et des cliquetis et craquements espacés du vaisseau en train de refroidir. Un balcon sortit d'une coupée dans la muraille à 30 mètres au-dessus de la fosse. 5 silhouettes s'avancèrent. « Merci pour la promenade !» fit le colonel Cassade en se tournant vers le consul. Celui-ci hocha distraitement la tête et s'appuya à la rambarde, en respirant l'air frais à grandes goulées. Des gouttelettes de pluie ruisselèrent sur sa barbe et sur ses sourcils. Seul Weintraub souleva le bébé de son panier. L'enfant avait été réveillé, sans doute par le changement de température et de pression, ou par les bruits, les odeurs et les mouvements différents. Elle se mit à brailler. Il la berça et lui parla doucement, mais les glapissements continuèrent.
« Voilà une musique de circonstance pour célébrer notre arrivée !»
déclara Martin Silenus. Le poète portait une longue cape mauve et un béret grenat incliné sur son épaule droite. Il but une gorgée du vin qu'il avait apporté avec lui du salon.
« Jésus à béquille, cet endroit a vraiment changé » s'écria-t-il.
Le consul, qui n'avait quitté Hyperion que depuis 8 années locales, devait en convenir. Le port spatial se trouvait alors à 9 kilomètres des premiers faubourgs de la ville. Aujourd'hui, il était entouré de cabanes en bois, de tentes et de rues boueuses. De son temps, il n'y avait pas plus d'une arrivée par semaine, alors qu'il comptait aujourd'hui plus d'une 20aine de vaisseaux sur le terrain. Le minuscule bâtiment de douane et d'administration avait été remplacé par une énorme bâtisse en préfabriqué. Une 12aine de fosses et de grilles destinées aux vaisseaux de descente avaient été ajoutées, un peu n'importe comment, à l'ouest, et les installations étaient partout encombrées de modules bâchés sous une toile de camouflage qui pouvaient servir, le consul le savait, aussi bien de station de commandement au sol que de baraquement. Une forêt d'antennes exotiques se dressait vers le ciel à partir d'un groupe de ces modules à une extrémité du terre-plein.
« Le progrès !» murmura le consul. « La guerre !» fit le colonel Cassade.
« Mais ce sont des gens qu'il y a là-bas »
s'exclama Brown Lamia, pointant l'index en direction des portes du terminal principal, à l'extrémité sud du terrain. Un océan de couleur terne venait s'écraser, comme une houle silencieuse, sur le grillage qui marquait la séparation avec l'extérieur et sur le champ de confinement mauve.
« Bon Dieu ! Elle a raison !»
fit le consul. Cassade sortit ses jumelles et ils observèrent à tour de rôle la foule de milliers de personnes qui se pressaient contre la barrière de grillage et de champs répulsifs.
« Que font-ils là ?» demanda Lamia. « Que veulent-ils »
Même à 500 mètres de distance, l'énergie aveugle qui se dégageait de cette foule était impressionnante. On voyait les silhouettes sombres des soldats de la force en train de patrouiller juste à l'intérieur du périmètre. Le consul se rendit soudain compte que la bande de terrain nu qu'il voyait entre la grille, le champ de confinement et les sentinelles devait être minée ou balayée par un rayon de mort, ou encore les deux à la fois.
« Que veulent-ils ? » répéta Lamia.
« Ils veulent partir, » dit Cassade.
Avant même que le colonel eût parlé,
Le consul avait compris la raison de la présence des tentes et des baraques autour du port spatial. Les habitants d'Hyperion cherchaient à fuir leur planète. Ils devaient s'agglutiner ainsi au grillage silencieusement chaque fois qu'un vaisseau se posait.
« En voilà un, en tout cas, qui ne risque pas de s'envoler !»
fit Martin Silenus en désignant du doigt une montagne basse située au sud, au-delà du fleuve.
« Ce bon vieux William Rex le pleureur, que Dieu garde son âme impie !»
Le visage sculpté du roi Billy le Triste était à peine visible à travers la pluie fine et l'obscurité grandissante.
« Je l'ai bien connu, Horatio, »
continua le poète ivre.
« Un homme jamais à court de plaisanterie. Pas une seule qui fût drôle. Un vrai trou du cul, Horatio. »
Seul Weintraub se tenait en retrait à l'entrée du balcon pour abriter son bébé de la pluie et écarter ses braillements de la conversation générale.
« Nous avons de la visite, »
fit-il en tendant le bras. Un véhicule de sol au polymère de camouflage inactivé et un VEM militaire modifié par l'adjonction de souffleries de sustentation adaptées au faible champ magnétique d'Hyperion s'approchaient d'eux sur la piste mouillée. Sans quitter des yeux un seul instant la montagne représentant le roi Billy à la triste figure, Silenus récita d'une voix douce, à peine audible,
« Au plus profond des ombres d'une triste vallée, enfouie loin de la laine vivifiante du matin, loin de midi flamboyant et de l'étoile solitaire du soir, Saturne, aux cheveux gris, était assis, muet comme une pierre, aussi immuable que le silence environnant son refuge. Des forêts s'étageaient alentour de sa tête, telles des nuées sur des nuées. »
Le père Hoyt sortit sur le balcon en se frottant les joues des deux mains. Ses yeux étaient hagards comme ceux d'un enfant émergeant du sommeil.
« Nous sommes arrivés ? »
demanda-t-il.
« Pour sûr, bordel de merde ! »
s'écria le poète en rendant les jumelles au colonel.
« Préparons-nous à affronter ces foutues marines !»
Le jeune lieutenant ne parut nullement impressionné par le groupe, même après avoir passé dans son scanner la plaquette que Het Mastin lui avait remise de la part du commandant du détachement de la force. L'officier prit son temps pour examiner en détail chaque laissez-passer, les faisant attendre sous la pluie, en lançant de temps à autre une remarque avec l'arrogance oisive de ses petits chefs, qui viennent de se voir attribuer une parcelle de pouvoir. Puis ce fut le tour de Fedman Kassad, et il leva les yeux avec l'expression d'une belette effarée.
« Le colonel Kassad ?»«
En retraite, » précisa ce dernier.
« Je suis vraiment désolé, mon colonel. »
balbutia le lieutenant en rendant précipitamment les laissez-passer à tout le monde.
« Je ne me doutais pas que vous faisiez partie de ce groupe. C'est-à-dire, le commandant ne nous a pas... Mon oncle a fait campagne avec vous sur Brescia, mon colonel. Je veux dire que... Oh, je suis navré. S'il y a quelque chose que mes hommes ou moi puissions faire pour... »«
Repos, lieutenant, » coupa Kassad. « Dites-nous s'il y a un moyen de transport disponible pour nous rendre en ville. »«
C'est que... »
Le jeune marine voulut se gratter le menton, mais se rappela juste à temps qu'il avait son casque.
« C'est faisable, mon colonel, mais la foule là-bas n'est pas commode et ces foutus VEM ne fonctionnent pas très bien sur cette putain de... Pardonnez-moi, mon colonel. » Le problème, c'est que tous les appareils de transport au sol sont réservés au matériel, et il ne reste plus aucun glisseur de libre jusqu'à 22 heures. Mais je me ferai un plaisir d'inscrire votre groupe sur la liste des prochains. Une seconde,
fit le consul. Un glisseur à la coque bosselée, arborant sur le côté de la jupe, l'emblème géodésique doré de l'hégémonie, venait de se poser à une dizaine de mètres de là. Un homme grand et maigre en descendit.
Théo,
s'écria le consul. Les deux hommes coururent l'un vers l'autre, firent mine de se serrer la main, mais se ravisèrent et se donnèrent joyeusement l'accolade.
« Bon Dieu !» fit le consul. « Tu as une mine superbe, mon vieux Théo !»
C'était vrai. Son ex-adjoint avait gagné 6 ans sur lui, mais il avait toujours ce sourire de jeune garçon, ce visage mince, et cette tignasse rousse qui avait incité plus d'une jeune créature célibataire, et quelques femmes mariées aussi, à postuler pour un emploi au consulat. La timidité qui faisait partie des points sensibles de Théo Lane était toujours là, elle aussi, comme l'attestait le geste inutile avec lequel il était en train de rajuster les lunettes archaïques à monture de corne, qui représentait sa seule affectation.
« Je suis ravi que tu sois de retour parmi nous, » déclara-t-il.
Le consul se tourna pour faire les présentations, puis s'interrompit brusquement.
« Mon Dieu, mais le consul, c'est toi maintenant !» s'exclama-t-il. « Excuse-moi, Théo, je n'y pensais plus. »
Théolaine sourit en rajustant une nouvelle fois sa monture.
« Ce n'est pas grave, » dit-il, « d'autant plus que j'ai cessé de porter ce titre depuis quelques mois.
Je suis maintenant gouverneur général. »
Le conseil intérieur a réclamé et obtenu le statut officiel de colonie. « Soyez tous les bienvenus sur la dernière planète en date de l'hégémonie. »
Un flou d'une fraction de seconde passa dans le regard du consul, puis il donna une nouvelle accolade à son ancien protégé.
« Toutes mes félicitations, Excellence !»
Théo eut un large sourire, puis leva les yeux vers le ciel.
« Je crois que ça ne va pas tarder à tomber pour de bon, » dit-il. « Pourquoi ne pas faire monter tout le monde à bord du glisseur ? Je vous déposerai en ville. »
Il se tourna en souriant vers le jeune officier.
« Lieutenant ?»«
Oui, votre Excellence, »
fit l'officier en se mettant au garde à vous.
« Pourriez-vous faire charger les bagages de ces personnes dans mon appareil ? Nous aimerions tous partir avant qu'il ne pleuve. »
Le glisseur suivit le ruban gris de la route du sud à une hauteur constante de 60 mètres. Le consul occupait un fauteuil à côté du pilote, tandis que le reste du groupe se détendait à l'arrière sur les sièges inclinables en mousse lovée. Martin Silenus et le père Hoyt semblaient dormir. Le bébé de Weintraub avait cessé de hurler, en échange d'un biberon souple de lait maternel synthétique.
« Les choses ont bien changé !» déclara le consul.
Collant la joue à la verrière ruisselante de pluie, il contempla le chaos qui régnait au-dessous d'eux. Des milliers de cabanes et d'abris de fortune couvraient les flancs des collines et des ravins le long des 3 kilomètres de route qui séparaient le port spatial des premiers faubourgs. Des feux avaient été allumés çà et là sous des bâches humides, et le consul distingua des silhouettes couleur de boue qui allaient et venaient entre les cabanes de même couleur. De hautes clôtures bordaient l'ancienne route du port spatial, qui avait été élargie et rénovée. Sur deux fils de chaque côté, les camions et les véhicules à effet de sol, pour la plupart militaires, vert kaki ou revêtus d'un polymère de camouflage inactivé, se déplaçaient lentement l'un derrière l'autre. Plus loin, les lumières de Kitz, bien plus étendues que dans le souvenir du consul, envahissaient de nouveaux secteurs de la vallée et des collines.
« 3 millions !»
murmura Théo comme s'il avait lu dans la pensée de son ex-patron.
« Ils sont au moins 3 millions, et il en arrive chaque jour. »
Le consul écarquilla les yeux.
« Il n'y avait que 4,5 millions d'habitants sur toute la planète quand je suis parti. »
« Ce nombre n'a pas changé, mais ils veulent tous venir à Kitz, embarquer sur n'importe quel vaisseau et foutre le camp d'ici. »
Certains attendent que nous construisions un Distrans, mais la plupart pensent qu'il ne sera jamais prêt à temps.
Ils ont peur. Des extros ?
En partie aussi, mais surtout du Gritch.
Le consul écarta son visage de la verrière glacée.
Il est donc descendu au sud de la chaîne bridée ?
Théo laissa entendre un petit rire sans conviction.
Il est partout.
Ils sont partout, plutôt.
La plupart des gens d'ici sont convaincus qu'il y en a maintenant des douzaines ou même des centaines. On attribue au Gritch des carnages sur les 3 continents. Partout, en fait, à l'exception de Kitz, de certaines parties de la côte de la Crinière et de quelques villes comme Endymion.
Combien de victimes ?
Demanda le consul qui ne tenait pas tellement à connaître la réponse.
20 000 morts ou disparus au moins.
Il y a aussi pas mal de blessés, mais on ne peut pas tout attribuer au Gritch, n'est-ce pas ?
Fit Théo avec un rire sec.
Le Gritch, comme chacun sait, ne fait pas de blessés. Les gens se tirent dessus dans l'affolement général. Ils tombent dans l'escalier, se jettent par les fenêtres ou se font piétiner par la foule. C'est la panique. Un putain de désastre.
En 11 ans de collaboration avec Théo Lane, le consul ne l'avait jamais entendu utiliser un tel langage.
Et la force ne fait rien ? Demanda-t-il. Est-ce sa présence qui éloigne le Gritch des villes ?
La force se contente de contenir la foule en cas d'émeute, fit Théo en secouant la tête. Ces foutues marines ne s'intéressent qu'aux accès du port spatial et de la zone militaire de Port-Rome. Ils évitent tout affrontement direct avec le Gritch. Ils se réservent pour les extros.
Et les FT ?
demanda le consul, qui savait très bien que les forces territoriales, peu entraînées, n'étaient pas à la hauteur de cette situation.
Parmi les victimes, 8 000 au moins sont DFT, répondit Théo avec un haussement d'épaule.
Le général Braxton a remonté la route du fleuve avec sa vaillante 3e unité de combat pour abattre le Griche dans sa tanière, et plus personne n'a jamais revu aucun d'eux.
Tu plaisantes ? Fit le consul.
Mais il lui suffisait de voir la tête que faisait Théo pour savoir que ce n'était pas le cas.
J'aimerais savoir, reprit le consul au bout de quelques secondes de silence, comment tu t'arranges pour avoir le temps de venir nous accueillir ici ?
Je ne l'ai pas,
dit le gouverneur général en tournant la tête pour regarder les autres passagers à l'arrière qui s'étaient assoupis ou se penchaient l'air épuisé au hublot.
J'avais besoin de te parler, pour te dissuader d'y aller.
Le consul secouait déjà la tête, mais Théo lui saisit le bras et le serra très fort.
Écoute d'abord ce que j'ai à te dire, bon Dieu. Je sais que c'est difficile pour toi de revenir ici après ce qui est arrivé, mais merde! C'est ridicule de tout foutre en l'air sans raison. Laisse tomber ce stupide pèlerinage. Reste avec nous à Kitz.
Impossible, commença le consul.
Laisse-moi te parler d'abord. Premièrement, tu es le meilleur diplomate que j'ai jamais connu et le plus apte à gérer cette crise. Nous avons besoin de tes compétences. Cela n'a rien. Tique-toi un peu. Deuxièmement, toi et les autres, vous n'arriverez jamais à moins de 200 kilomètres des tombeaux du temps. Nous ne sommes plus à l'époque que tu as connue où ces cons de candidats au suicide pouvaient jouer aux touristes pendant une semaine et puis changer d'avis et rentrer chez eux. C'est fini. Le Griche est sorti au grand jour et il ne rigole pas. Je comprends tout cela, mais troisièmement, j'ai personnellement besoin de toi. J'ai supplié Tosetti Central d'envoyer quelqu'un d'autre ici. Lorsque j'ai appris ta venue, ça m'a permis de tenir le coup ces 2 dernières années.
Le consul secoua la tête sans comprendre. Théo vira en direction du centre de la ville, puis demeura quelques instants en vol stationnaire. Quittant ses commandes des yeux, il se tourna vers le consul.
« Je veux que tu prennes à ma place le poste de gouverneur général. Le Sénat ne dira rien, à l'exception de Gladstone peut-être, mais il sera trop tard quand elle s'en apercevra. »
C'était comme si quelqu'un venait de frapper le consul sous la 3e côte. Il se détourna pour regarder, au-dessous de lui, le dédale de ruelles et d'immeubles délabrés qu'était Jacktown, la vieille ville. Quand il recouvra sa voix, il murmura
« Je ne peux pas, Théo. »
« Écoute, si tu... »« Je te dis que je ne peux pas. Je ne réussirais pas mieux que toi si j'acceptais, mais ce n'est pas la question. Je ne peux pas parce qu'il faut que je fasse ce pèlerinage. »
Théo rajusta ses lunettes, puis regarda fixement droit devant lui, sans rien dire.
« Tu es de loin le plus compétent des diplomates des affaires étrangères avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, » reprit le consul.
« Je me suis retiré depuis 8 ans. Il me semble que... »
Théo hocha sèchement la tête en l'interrompant.
« C'est au temple Grishtek que vous voulez aller ?»«
Oui. »
Le glisseur décrivit un large cercle et se posa. Le consul, perdu dans ses pensées, regardait dans le vide tandis que les portières latérales du véhicule se soulevaient pour s'escamoter dans leur logement et que Sol Weintraub s'exclamait
« Oh mon Dieu !»
Le groupe descendit pour faire face à une plaine de décombres calcinés occupant l'emplacement du temple Grishtek. Depuis que les tombeaux du temps avaient été fermés quelques 25 années locales auparavant, pour cause de trop grands dangers, le temple Grishtek était devenu l'attraction touristique la plus en vogue. De la largeur de 3 pâtés de maisons, culminant à 150 mètres au sommet de la flèche effilée de sa tour centrale, le temple principal de l'église Grishtek tenait en même temps de la cathédrale grandiose et impressionnante, de la pure plaisanterie gothique avec ses courbes dentelées et ses arcs boutants de pierre permassoudée à un squelette en fibre composite armée, de la gravure d'échère avec ses perspectives truquées et ses angles impossibles, et du cauchemar à la Jérôme Bosch avec ses entrées de tunnels, ses chambres secrètes, ses jardins sombres et ses secteurs interdits. Mais par-dessus tout, cet édifice appartenait au passé mystérieux d'Hyperion. Il ne restait plus rien de tout cela à présent. Seuls des tas de pierres noircies rappelaient la splendeur passée du lieu. Des poutrelles de métal à moitié fondues sortaient des ruines, comme les côtes de quelque gigantesque carcasse. La grande masse des décombres avait été engloutie par les souterrains, catacombes et galeries, qui se trouvaient au-dessous de l'édifice âgé de 300 ans. Le consul s'avança au bord d'une fosse et se demanda si, comme le disait la légende, les sous-sols étaient véritablement reliés à l'un des labyrinthes de la planète.
« On dirait qu'ils ont utilisé des clapes pour raser cet endroit !»
fit Martin Silenus en se servant d'un terme archaïque désignant tout type de canon laser à amplification de puissance. Le poète, qui semblait subitement dégrisé, rejoignit le consul devant la fosse.
« Je me souviens d'une époque où il n'y avait rien d'autre ici que le temple et une petite partie de la vieille ville, »
dit-il.
« Après la catastrophe au voisinage des tombeaux, Billy a décidé de reconstruire Jacktown ici à cause du temple. Et maintenant, il ne reste plus rien. Bon Dieu !»«
Non, » déclara Cassad. Les autres se tournèrent vers lui. Le colonel se redressa à l'endroit où il s'était accroupi pour examiner les décombres.
« Pas des clapes, » dit-il, « mais des charges creuses au plasma. Il y en a eu plusieurs. »
« Et maintenant, tu veux toujours rester ici pour entreprendre cet inutile pèlerinage ?» demanda Théo. « Pourquoi ne pas venir plutôt avec moi au consulat ?» Il s'adressait au consul, mais avait étendu l'invitation à tout le monde. Le consul se tourna vers lui. Pour la première fois, il voyait sous les traits de son ex-adjoint le gouverneur général d'une planète assiégée de l'hégémonie.
« C'est impossible, Votre Excellence, » dit-il. Pour moi, tout au moins. Je ne sais pas ce que décideront les autres.
Les quatre hommes et la femme secouèrent négativement la tête. Silenus et Cassad commencèrent à décharger les bagages. La pluie recommençait à tomber, sous la forme d'une légère bruine issue de nulle part. En cet instant, le consul remarqua la présence de deux glisseurs de combat de la force qui tournaient au-dessus des toitures avoisinantes. L'obscurité grandissante et leurs coques revêtues d'un polymère caméléon les avaient très bien cachés jusqu'ici, mais la pluie révélait leurs contours. Naturellement, songea le consul, le gouverneur général ne se déplace pas sans escorte.
Est-ce que les prêtres ont pu se mettre à l'abri ? Demanda Brown Lamia. Y a-t-il eu des survivants quand le temple a été détruit ?
Oui, répondit Théo. Le dictateur de facto de 5 millions d'âmes condamnées ôta ses vers pour les essuyer sur un pan de sa chemise.
Tous les prêtres du culte Grichtek avec leurs acolytes ont pu s'échapper par les galeries. La foule assiégeait cet endroit depuis des mois. Son chef, une femme nommée Camon, qui vient de quelque part à l'est de la mer des Hautes Herbes, a donné tout ce qu'il fallait comme avertissement à ceux du temple avant de lancer ses DL-20.
« Que faisait la police ?» demanda le consul.
« Et les FT ? La force ?»
Théolène sourit. En cet instant, il semblait avoir des dizaines d'années de plus que le jeune homme qu'avait connu le consul.
« Vous êtes tous restés en transit pendant 3 ans, » dit-il. « L'univers a changé depuis.
Les fidèles du Gritch se font tabasser et immoler par le feu dans le Retz tout entier. Imaginez ce que cela peut donner ici. La police de Kitz s'occupe uniquement de faire respecter la loi martiale que j'ai décrétée depuis 14 mois. Les FT et elles ont assisté sans intervenir à la destruction du temple. J'y étais, moi aussi. Il y avait 500 000 personnes ici ce soir-là.
Sol Weintraub fit un pas en avant.
« Est-ce qu'ils sont au courant, pour nous ?» demanda-t-il.
« Le pèlerinage, s'ils l'étaient, vous seriez déjà tous morts.
On pourrait croire qu'ils accueilleraient favorablement tout ce qui serait de nature à apaiser le Gritch, mais la seule chose qu'une foule déchaînée se dirait, c'est que vous avez été désigné par l'église Grichtek. Pour tout vous dire, il a fallu que j'use de mon droit de veto contre mon propre conseil. Il s'était prononcé en faveur de la destruction de votre vaisseau avant même son entrée dans notre atmosphère.
« Pourquoi as-tu fait ça ? » demanda le consul. « Je veux dire, pourquoi as-tu mis ton veto ?»
En soupirant, Théo rajusta ses lunettes. Hyperion a encore besoin de l'hégémonie et Gladstone bénéficie toujours du vote de confiance de la Pangermie, sinon de celui du Sénat.
Sans compter que j'ai besoin de toi.
Le consul contempla sans rien dire les ruines du temple Grichtek.
Ce pèlerinage était déjà terminé avant que vous ne soyez annoncé, reprit le gouverneur général Théo Lane.
Veux-tu revenir au consulat avec moi, au moins en qualité de conseiller spécial ?
Désolé,
déclara le consul.
C'est impossible.
Théo tourna abruptement les talons et, sans un mot de plus, grimpa dans son glisseur et décolla, suivi de son escorte à peine visible dans la brune. La pluie se mit à tomber plus fort tandis que le groupe se resserrait dans l'obscurité. Weintraub avait improvisé une capuche pour abriter Rachel, et le crépitement des gouttes d'eau sur le plastique faisait de nouveau pleurer le bébé.
« Que faisons-nous ? »
demanda le consul en regardant autour de lui dans la nuit à peine éclairée par les lumières des ruelles avoisinantes. Leur bagage était entassé en une montagne ruisselante. Il émanait du monde une odeur de cendre. Martin Silenus répondit, découvrant ses dents dans un large sourire.
« Je connais un bistrot. »
Il se trouva que le consul connaissait aussi ce bistrot, chez Cicéron. Il avait même vécu là pendant la plus grande partie de son séjour de 11 ans sur Hyperion. Contrairement à la plupart des appellations en vigueur sur cette planète, Cicéron n'était pas une allusion à un quelconque produit littéraire de l'époque pré-égyrienne. On disait que l'établissement portait le nom d'un quartier d'une ancienne ville de la Terre. Certains parlaient de Chicago, USA, d'autres de Calcutta, AIS. Mais Stan Levesky, le propriétaire, arrière-petit-fils du fondateur, prétendait être le seul à en connaître la véritable origine, et il n'avait jamais voulu révéler son secret à personne. Le local proprement dit, au cours de ses 150 ans d'existence, avait éclaté, passant d'une simple salle au dernier étage sans ascenseur de l'un des immeubles les plus vieux et les plus croulants de Jacktown, en bordure du fleuve Ouli, à 4 vieux immeubles de 8 étages sur la berge du même fleuve. Les seuls éléments de chez Cicéron qui n'avaient pas changé au fil des décennies étaient les plafonds bas, l'atmosphère enfumée et le brouhaha constant des conversations qui donnait une impression d'intimité au milieu d'un tourbillon de bruit et d'agitation. Ce soir-là, pourtant, tout sentiment d'intimité était absent. Le consul et son groupe s'arrêtèrent avec leurs bagages à l'entrée qui donnait sur le chemin de marche.
« Par les larmes de Jésus !»
s'écria Martin Silenus. Chez Cicéron présentait l'aspect d'un champ de bataille occupé par des hordes barbares. Il n'y avait pas une seule table de libre, pas le moindre siège. C'était surtout des hommes qui étaient présents, et le sol était jonché de paquetages, d'armes, de rouleaux de couchage, de matériel de communication suranné, de rations et de toutes sortes d'objets hétéroclites accompagnant une armée de réfugiés. Une armée en déroute, peut-être. L'atmosphère de chez Cicéron, riche autrefois des parfums mêlés des grillades, du vin, de la bière, des stimes et du tabac détaxé, était à présent lourdement saturé d'un mélange d'odeurs corporelles, d'urine âcre et de désespoir. À ce moment-là, l'énorme silhouette de Stan Levesky se matérialisa dans la pénombre de la salle. Ses avant-bras étaient toujours aussi épais, mais son front avait grignoté quelques centimètres sur la lisière de ses cheveux noirs clairsemés et les rides étaient plus nombreuses autour de ses petits yeux ronds, présentement écarquillés à la vue du consul.
« Un revenant !»
s'écria-t-il.
« Pas du tout. Tu n'es pas mort ?»«
Comme tu vois. »«
Merde alors !»
déclara Stan Levesky. Saisissant le consul par les bras, il le souleva aussi aisément que s'il s'agissait d'un bambin de 5 ans.
« Merde alors !»
répéta-t-il.
« Tu n'es pas mort ? Mais qu'est-ce que tu fiches ici ?»«
Je viens vérifier ta licence, » fit le consul.
« Ça ne te dérange pas de me reposer par terre ?»
Levesky le reposa délicatement sur ses pieds, lui donna un grand coup sur l'épaule et fit un large sourire. Puis il se tourna vers Martin Silenus et le sourire se mua en un froncement de sourcils.
« Votre visage me paraît familier, dit-il, mais je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. »«
J'ai connu votre arrière-grand-père, fit Silenus. À propos, est-ce qu'il vous reste de cette fameuse ale pré-égyrienne ? Cette bibine tiède, typiquement britannique, qui avait un goût de pisse d'élan recyclé. Je n'arrêtais pas d'en boire.
« Plus rien, »
fit Levesky en se prenant le menton.
« Bon Dieu, la vieille malle du grand-père Giré ? Les vieux holos du satyre de l'ancienne Jacktown ? Serait-ce possible ?»
Il dévisagea longuement Silenus, puis le consul, avançant la main pour les toucher prudemment de son médius massif.
« De revenant ?»
murmura-t-il.
6 personnes exténuées,
lui dit le consul tandis que le bébé se remettait à pleurer.
Ou plutôt 7. Avez-vous de la place pour nous ?
Leveski tourna sur lui-même d'un quart de cercle, d'un côté puis de l'autre, les bras écartés et les mains à plat.
Toutes les salles sont comme ça, dit-il. Plus une seule place de libre. Plus rien à boire, plus rien à manger. Plus de bière,
fit-il en plissant les yeux à l'adresse de Silenus.
Nous sommes devenus un hôtel sans lit. Ces gros cons de FT se sont installés ici sans payer et ils boivent leur propre bistouille en attendant la fin du monde. Qui ne saurait tarder à mon avis.
Il se tenait dans ce qui avait été autrefois la mezzanine d'entrée. Les bagages entassés se mêlaient aux équipements de toutes sortes qui jonchaient déjà le sol. Deux petits groupes de soldats se pressaient à travers la foule pour voir les nouveaux arrivants en hochant la tête d'un air appréciateur quand ils détaillaient Brown Lamia, qui leur jetait en retour des regards glacés. Stan Leveski regarda le consul un long moment avant de murmurer
« Je crois pouvoir vous trouver une table de balcon. Elle est occupée depuis une semaine par 5 de ces foutus commandos de la mort des FT. Ils n'arrêtent pas de raconter à tout le monde comment ils vont écraser de leurs mains nues les légions des extros. Si vous voulez la table, je me ferai un plaisir de foutre ces merdes dehors. »
« D'accord, » dit le consul.
Il faisait déjà volte-face pour s'éloigner lorsque Lamia posa la main sur son bras.
« Voulez-vous de l'aide ? » demanda-t-elle.
Il haussa les épaules puis sourit.
« Je crois pouvoir me débrouiller tout seul, mais ce n'est pas de refus. Venez. »
Ils disparurent dans la foule. Le balcon du deuxième étage offrait juste assez de place pour la table délabrée et 6 chaises. Malgré l'encombrement insensé des salles principales, des marches d'escalier et des paliers, personne ne leur avait disputé la place après que Leveski et Lamia eurent balancé les commandos de la mort, sans tenir compte de leurs protestations, par-dessus la balustrade dans la rivière qui coulait 9 mètres plus bas. Un peu plus tard, Leveski s'était arrangé pour leur faire monter un pot de bière, une corbeille de pain et des tranches de rosbif. Le groupe mangeait en silence, ayant eu plus que sa part de fatigue post-fugue, de faim et de dépression. L'obscurité du balcon était à peine adoucie par les lumières de l'intérieur ou celles des péniches qui passaient en bas sur le fleuve. La plupart des bâtiments sur les berges du Houli étaient plongés dans le noir, mais les nuages bas reflétaient d'autres lumières de la cité et le consul put distinguer les ruines du temple Gritschtek à 500 mètres de là en amont.
« Bon, »
fit le père Hoyt qui avait visiblement récupéré des effets de la dose massive d'ultramorphine et se trouvait actuellement à mi-chemin entre la douleur et l'apaisement du sédatif.
« Que faisons-nous maintenant ?»
Comme personne ne répondait, le consul ferma à demi les yeux. Il refusait de prendre l'initiative en quoi que ce soit. Assis là, sur le balcon de chez Cicéron, il était trop facile de se laisser aller à reprendre les rythmes d'une existence passée où il boirait jusqu'au petit matin, contemplant les averses météoriques annonçant l'aube et le départ des nuages, puis regagnerait en titubant son appartement vide près de la place du marché, pour se lever 4 heures plus tard et se rendre au consulat, lavé, rasé, présentant une apparence à peu près humaine à l'exception de ses yeux injectés de sang et de la douleur insensée qui lui vrillait le crâne. Il faisait confiance à Théo, le discret et très efficace Théo, pour lui faire franchir sans encombre la matinée. Il faisait confiance à la chance pour l'amener jusqu'à la fin de la journée, à la bière de chez Cicéron pour lui faire passer la nuit, et à l'insignifiance de sa carrière pour le conduire jusqu'au bout de son existence.
Prêt pour le pèlerinage ?
Le consul rouvrit brusquement les yeux. Une silhouette drapée d'une cape, à la tête encapuchonnée, se tenait sur le seuil du balcon, et il crut un instant qu'il s'agissait de Het Mastin. Mais il se rendit compte que cet homme était beaucoup plus petit et que sa voix n'avait pas l'emphase de celle du Templier dans sa manière d'appuyer sur les consonnes.
« Si vous êtes prêt, il faut partir tout de suite, » reprit la silhouette sombre.
« Qui êtes-vous ? » demanda Brown Lamia.
« Suivez-moi, » fut la seule réponse.
Fedman Kassad se leva, baissant la tête pour ne pas se cogner au plafond, et se saisit de la main gauche d'un coin du capuchon qu'il tira en arrière.
« Un androïde !»
s'exclama Lennart Hoyt, incapable de détacher son regard de la peau bleue et des yeux bleus sur bleus de l'homme. le consul était moins surpris. La loi hégémonienne interdisait depuis un peu plus d'un siècle de posséder des androïdes, et pratiquement aucun d'entre eux n'avait été biofabriqué pendant cette période, mais on les utilisait toujours comme main-d'œuvre dans les régions reculées des mondes non coloniaux comme Hyperion. Le temple Grichtek en avait beaucoup fait usage, conformément à la doctrine de l'église Grichtek qui proclamait que les androïdes, étant exempts de tout péché originel, étaient spirituellement supérieurs à l'humanité et, incidemment, préservés du terrible et inéluctable châtiment Grichtek. « Suivez-moi, vite !» répéta l'androïde en remettant son capuchon en place.
« C'est le temple qui vous envoie ?»
demanda Brown Lamia.
« Chut !»
fit l'androïde en tournant furtivement la tête vers la salle, puis en faisant signe que oui.
« Dépêchez-vous, je vous en prie !»
chuchota-t-il. Ils se levèrent tous, hésitant encore. Le consul vit Cassad défaire avec précaution la fermeture étanche du gilet de cuir qu'il portait. Il entrevit en un éclair le bâton de la mort passé à la ceinture du colonel. En temps normal, la seule pensée de se trouver à proximité d'une telle arme l'aurait bouleversé. Une seule fausse manœuvre et toutes les synapses des personnes présentes sur ce balcon pouvaient être réduites en bouillie. Mais dans ces circonstances, il fut étrangement rassuré par ce qu'il avait vu.
« Nos bagages ?»
commença Weintraub.
« On s'en occupe !»
fit l'androïde.
« Suivez-moi, maintenant !»
Ils descendirent derrière lui et s'enfoncèrent dans la nuit, aussi las et passifs qu'un soupir. Le consul dormit jusqu'à une heure relativement tardive. Une demi-heure après l'aube, un rayon de lumière se fraya un chemin à travers les lames du volet du hublot et forma un rectangle sur l'oreiller. Le consul se tourna dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Une heure plus tard, il y eut une forte secousse, tandis que les mantas épuisés, qui avaient tiré le chaland toute la nuit, étaient remplacés par d'autres. Le consul continua cependant de dormir. Durant toute l'heure qui suivit, les allées et venues et les cris de l'équipage sur le pont devant sa cabine se multiplièrent de plus en plus fort sans le réveiller, et ce fut finalement la sirène retentissante des écluses de Carla qui le tira de son lourd sommeil. Avec des gestes lents, ankylosé par les effets de la fugue comme s'il était drogué, il se lava du mieux qu'il put au-dessus du lavabo où il fallait pomper l'eau, puis revêtit un confortable pantalon de velours côtelé, une vieille chemise de toile et des chaussures de marche à semelle de mousse. Il grimpa ensuite sur le pont intermédiaire. Le petit déjeuner était servi sur un long buffet à proximité d'une table épaisse qui pouvait s'escamoter dans les bordages du pont. Un auvent abritait l'endroit où l'on mangeait et sa toile rouge et or claquait sous la brise que produisait leur passage. La matinée était splendide, claire et dégagée. Le soleil d'Hyperion rattrapait en vigueur ce qui lui manquait en grosseur. Weintraub, Lamia, Cassad et Silenus étaient là depuis quelque temps déjà. Lennart Hoyt et Het Mastin se joignirent au groupe quelques minutes après l'arrivée du consul. Celui-ci se servit des toasts à la crème de poisson et du jus d'orange, puis se dirigea vers le bastingage. Le fleuve était large à cet endroit, au moins 1 kilomètre d'une rive à l'autre, et sa surface émeraude et lapis-lazuli reflétaient la couleur du ciel. À première vue, le consul ne reconnaissait pas le paysage qui s'étendait de part et d'autre du fleuve. À l'est, des rizières de plantes périscopes étalaient à perte de vue dans les lointains brumeux, leur surface mouillée miroitante où se reflétait le soleil levant. Quelques huttes d'indigènes étaient visibles à la jonction des levées de terre des padis, dont les murs à angle droit étaient renforcés de bois de vorte blanchie ou de demi-chênes dorés. À l'ouest, la rive du fleuve était couverte de buissons plats de guissen, de racines de tuvier et d'une sorte de fougère d'un rouge flamboyant que le consul était incapable d'identifier. Tout cela poussait autour de marais boueux et de lagunes en miniature qui s'étendaient, sur 1 kilomètre ou plus, jusqu'aux berges escarpées où des buissons bleus épineux s'accrochaient aux moindres interstices de la roche granitique. Durant quelques secondes, le consul se sentit perdu, désorienté sur un monde qu'il croyait bien connaître. Puis il se souvint du coup de sirène des écluses de Carla et comprit qu'il s'était engagé dans un bras rarement fréquenté du fleuve Ouli, au nord de la forêt de Doukobor. Il n'avait jamais remonté cette partie du fleuve, ses voyages par voie aérienne ou fluviale l'ayant généralement conduit à suivre plutôt le canal royal qui passait à l'est des falaises. Il supposait qu'il prenait ce chemin détourné pour éviter un danger ou un obstacle quelconque sur la route normale de la mer des Hautes-Herbes. D'après ses estimations, il devait se trouver en ce moment à environ 180 km au nord-ouest de Kitz.
« Elle n'a pas du tout le même aspect à la lumière du jour, n'est-ce pas ?»
demanda le père Hoyt. Le consul continua d'observer la rive sans répondre. Il n'était pas bien sûr d'avoir compris ce que Hoyt voulait dire. Puis, il s'avisa qu'il parlait de la péniche. Comme en un rêve étrange, ils avaient suivi le messager androïde sous la pluie pour monter à bord de la vieille péniche et emprunter le dédale de coursives et de cabines au sol en damier. Et Mastin les avait rejoints à hauteur des ruines du temple, puis ils avaient laissé les lumières de Kitz derrière eux. Le consul gardait un souvenir flou et épuisé des heures qui avaient précédé et suivi minuit. Il supposait que les autres étaient aussi désorientés que lui. Il se rappelait vaguement sa surprise en découvrant que l'équipage de la péniche n'était composé que d'androïdes, mais tout avait été effacé par le soulagement qu'il avait éprouvé quand il avait enfin refermé la porte de sa cabine pour se traîner dans son lit.
« J'ai discuté un peu avec Abetik ce matin », lui dit Weintraub en se référant à l'androïde qui leur avait servi de guide.
« Ce vieux sabot a toute une histoire. »
Martin Silenus se leva pour aller se servir au buffet un supplément de jus de tomate auquel il ajouta une dose de quelque chose qu'il gardait sur lui dans un flacon plat.
« Il ne date pas d'hier, c'est sûr, » dit-il. « Ce foutu bastingage a été poli par d'innombrables mains, le pont usé par des légions de pieds, le plafond noirci par la suie des lampes et les lits défoncés par des générations de baiseurs. D'après moi, cette péniche a plusieurs siècles. » Les moulures et ces putains de boiseries rococo sont uniques. Avez-vous remarqué que sous les autres odeurs, les incrustations de bois dégagent encore un parfum de santal? Je ne serais pas surpris si on me disait que ces trucs-là viennent tout droit de l'ancienne terre.
C'est tout à fait le cas,
fit Sol Weintraub, tandis que le bébé Rachel, qu'il tenait au bras, soufflait sur lui des bulles de salive dans son sommeil.
Nous sommes sur le pont du fier Bénarès. Construit et baptisé en l'honneur de la ville du même nom de l'ancienne terre.
Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu parler d'une ville de l'ancienne terre appelée ainsi,
fit le consul. Brown Lamia leva les yeux des restes de son petit déjeuner.
Bénarès, également connu sous le nom de Varanasi, ou Gandipur, dit-elle, est à libre de l'Inde. A fait partie de la seconde sphère de coprospérité après la troisième guerre sino-japonaise. Détruite lors de l'échange nucléaire limité entre l'Inde et la République soviétique musulmane.
« C'est exact, » fit Weintraub. « Le Bénarès a été construit quelque temps avant la Grande Erreur, milieu du 22e siècle à vue de nez. D'après Abetik, c'était à l'origine une barge de lévitation. « Est-ce que les générateurs EM sont toujours là ?»
interrompit le colonel Kassad.
« Il me semble, » répondit Weintraub. Près du grand salon sur le pont inférieur. Vous verrez que le sol du salon est fait de cristal de lune transparent, splendide quand on croise à 2000 mètres, mais sans objet à présent.
Bénarès,
murmura Martin Silenus en caressant amoureusement de la main le bastingage poli par les ans.
Je m'y suis fait entièrement dépouiller autrefois.
Brown Lamia posa bruyamment sa tasse à café.
« Vous n'allez pas nous dire, mon vieux, que vous êtes assez décrépit pour vous souvenir de l'ancienne terre. Vous nous prenez pour des idiots ?»«
Ma chère enfant, » fit Martin Silenus en rayonnant, « je ne vous prends pour rien du tout. L'idée m'a seulement effleuré qu'il serait amusant, en même temps qu'intéressant et fort édifiant, que tous ici nous échangions la liste des différents endroits où nous avons soit dépouillé les autres, soit été dépouillés par eux. Et puisque vous avez l'avantage injuste d'être fille de sénateur, je suis certain que votre liste serait beaucoup plus passionnante et bien plus longue que les nôtres. »
Lamia ouvrit la bouche pour répliquer, mais fronça les sourcils et demeura muette.
« Je me demande comment ce vaisseau est arrivé jusqu'à Hyperion. » murmura le père Hoyt.
À quoi bon transporter une barge de lévitation sur un monde où l'équipement EM ne fonctionne pas ?
Ce n'est pas si sûr, lui dit le colonel Cassade. Hyperion possède un champ magnétique, même s'il est faible et peu fiable quand il s'agit de maintenir un appareil en l'air.
Le père Hoyt haussa un sourcil, visiblement perplexe devant cette distinction.
Hé ! Hey !
S'écria soudain le poète en s'adossant au bastingage.
Nous sommes tous là ?
Et alors ?
Demanda Brown Lamia, dont les lèvres se pinçaient toujours en une ligne mince lorsqu'elle s'adressait à Silenus.
Nous sommes tous ensemble. Pourquoi ne pas continuer de raconter nos histoires ?
Je croyais, déclara Etmastine, que nous devions faire cela après dîner.
Martin Silenus haussa les épaules.
Déjeuner ou dîner, qu'est-ce que ça peut foutre ? Profitons de l'occasion. Nous n'allons pas mettre 6 ou 7 jours pour arriver au tombeau du temps, je suppose.
Le consul réfléchit quelques secondes. Un peu moins de 2 jours pour arriver à l'endroit où le fleuve ne pourrait plus les porter, encore 2 jours, un peu moins peut-être, avec des vents favorables, pour traverser la mer des hautes herbes, certainement pas plus d'une journée pour franchir les montagnes.
Non, dit-il, nous ne mettrons pas tout à fait 6 jours.
Très bien, fit Silenus. Reprenons nos récits, sans compter que le Gritch peut très bien décider de venir à d'autres rencontres avant que nous n'allions frapper à sa porte. Si ces histoires de coin du feu sont censées augmenter nos chances de survie, je dis qu'il faut se dépêcher d'entendre le plus de monde possible avant que les compteurs ne commencent à se faire réduire en bouillie pour les chats par ce broyeur-mixeur ambulant auquel nous sommes si pressés de rendre visite.
Vous êtes dégoûtant,
fit Brand Lamia.
Ma petite chérie, sourit Silenus, ce sont les paroles mêmes qui sont sorties de votre bouche la nuit dernière, après votre second orgasme.
Lamia détourna les yeux. Le père Hoyt se racla la gorge et demanda
« À qui le tour ? De raconter son histoire, bien sûr ?»
Il y eut un silence pesant.
« C'est à moi, »
fit Fedman Cassade en sortant de la poche de sa vareuse blanche un morceau de papier sur lequel était tracé un grand 2.
« Ça ne vous dérange pas de commencer tout de suite ?»
demanda Sol Weintraub. Cassade esquissa l'ombre d'un sourire.
« Je n'étais pas du tout pour au début, » dit-il. « Mais s'il faut que la chose soit faite à l'heure, autant qu'elle soit faite avant l'heure.
Hey » « Hé !» s'écria Martin Silenus. « Notre homme connaît même ses classiques pré-égyriens. »
« Shakespeare ?» murmura le père Hoyt.
« Non, » répliqua Silenus. « Lerner et ce putain de Lowe. Neil de mes deux Simons. Posthène sodomisé par Hamel. »
« Colonel, » déclara gravement Sol Weintraub, « il fait beau, et personne ici ne semble rien avoir de plus pressé à faire durant l'heure qui vient. Nous vous serions très obligés de nous exposer les circonstances qui vous ont amené à participer à ce dernier pèlerinage Gritchtek sur Hyperion. »
Cassade hocha lentement la tête. Le soleil était un peu plus chaud, la toile d'auvent claquait, et les ponts du Bénarès craquaient tandis que l'ex-barge de lévitation remontait tranquillement le fleuve vers les montagnes et les marais hantés par le Gritch.